Une semaine d'actualité.
Bonjour, samedi 20 janvier, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revivre 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi écouter sur l'appli RFI pour votre téléphone et sur le site de la radio www.rfi.fr.
Pierre-Edouard Deldic.
Nous partirons pour la Corée, la Birmanie, les États-Unis, par exemple. Dans la seconde partie, rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité africaine et avec vos messages. Mais tout de suite, parlons de l'actualité française, dominée par l'annonce mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes, un dossier vieux de quelques décennies.
Je constate que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un tel projet d'aménagement, qui structure un territoire pour un siècle, ne peut se faire dans un contexte d'opposition exacerbée entre deux parties presque égales de la population. Les grands projets qui ont réussi dans les années récentes se sont tous réalisés parce qu'ils étaient largement portés et acceptés par la population. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Le récent rapport de médiation a montré qu'il n'y a pas de solution idéale, mais qu'il existe une alternative crédible au transfert de l'aéroport. Cette solution, c'est le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique.
Une semaine d'actualité dans toute sa diversité. Ce samedi, nous allons nous attarder en Sierra Leone avec notre invité qui connaît bien ce pays et vient d'écrire « Terre promise, Sierra Leone, ils ont toutes enduré ». Ça, c'est le sous-titre. Un ouvrage publié chez Gallimard. Bonjour Thierry Cruvelier.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de justice internationale. Vous avez écrit en 2006 « Le tribunal des vaincus ». C'était sur le tribunal sur le Rwanda, pour le Rwanda. Et en 2011, le maître des aveux sur le procès de Douche au Cambodge. Vous êtes intéressé aussi à la justice internationale en Sierra Leone et en Bosnie également. C'est d'abord votre sujet de compétence numéro un.
Oui, depuis une vingtaine d'années, très clairement. Ah oui. Avec quand même des origines africaines au niveau du reportage, puisque dans le début des années 90, je couvre essentiellement la Sierra Leone et le Rwanda.
Ouais, et c'est ça qui vous a fait rencontrer le peuple de la Sierra Leone qui compose le livre, en fait, qui est au cœur de votre livre.
Oui, c'est pratiquement quand même une forme d'hommage à ce peuple qui a vécu dans des conditions tout à fait extrêmes, à la fois de pauvreté et de violence, depuis 4 décennies.
Alors je vous remercie d'avoir écrit ce livre et il faut remercier les éditions Gallimard de l'avoir publié parce qu'un livre sur l'Afrique, c'est rare en France, et un livre sur la Sierra Leone, alors là, c'est encore plus rare.
C'est quasiment unique. Aujourd'hui, c'est le seul livre, à ma connaissance, qui raconte l'histoire de la Sierra Leone contemporaine depuis la fin des années 70 jusqu'à nos jours.
Alors, qui vous vaut la consécration, parce qu'il y a 2 jours, dans le monde des livres, il y a une page sur votre travail.
Oui, ce qui est une extraordinaire nouvelle, parce que effectivement intéresser les gens à la Sierra Leone, c'est très difficile, et que manifestement il y a quand même une appétence pour découvrir cette histoire et découvrir aussi peut-être un genre littéraire qui est cette façon de raconter à travers une enquête très rigoureuse, mais en utilisant des techniques d'écriture issues du roman, une manière de raconter, qui est une tradition américaine d'ailleurs, qu'on appelle le magazine writing ou journalisme littéraire. Et tout ça fait que oui, on a du coup un accueil inédit sur un pays qui est aussi peu connu.
Alors aujourd'hui, Thierry Cruvelier, sur RFI, nous faisons un bilan de l'action de Donald Trump, un an après son investiture, 20 janvier. Nous allons revenir sur une lettre ouverte que d'anciens ambassadeurs africains ont envoyée au président américain ces dernières heures. Écoutez cette correspondance de San Francisco, signée Eric de Salves.
Du Sénégal à l'Algérie, en passant par le Nigeria, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, ils sont en tout 48 et représentent la quasi-totalité des pays du continent. Tous anciens ambassadeurs africains aux États-Unis, ils cosignent une lettre de protestation adressée à Donald Trump après ses propos lors d'une réunion sur l'immigration qualifiant les pays d'Afrique et Haïti, je cite, de pays de merde. Cher monsieur le président, nous vous écrivons pour vous dire notre profonde inquiétude au sujet de vos récentes remarques sur les pays africains, écrivent-ils. L'Afrique est un continent de grands talents humains, d'une beauté extraordinaire et de ressources naturelles sans pareil, poursuit la lettre. C'est aussi un continent avec des liens historiques profonds avec les États-Unis. Le texte rappelle les liens économiques entre Afrique et États-Unis, mais aussi militaires et en termes de renseignement. Cet engagement mutuel est vital pour nos intérêts nationaux, expliquent les ex-ambassadeurs. Mais nous savons aussi que le monde est plus riche grâce à la contribution des Africains et notamment des Américains descendants d'Africains. Et les 48 anciens ambassadeurs africains aux États-Unis de conclure, nous espérons que vous allez réviser votre vision de l'Afrique et de ses citoyens et que vous reconnaîtrez la contribution importante que les Africains et les Afro-Américains ont apporté et continuent d'apporter à votre pays et à son histoire.
Alors Thierry Cruvelier, vous qui connaissez bien la Sierra Leone, l'Afrique, le Rwanda également, est-ce que vous vous êtes senti en quelque sorte un peu concerné par cette sortie du président américain, cette sortie étrange, et elle est confirmée parce que lui le dément évidemment. La Sierra Leone pourrait être considérée comme un pays infortuné, je vais formuler ça comme ça. Il faut rappeler que ce pays est sur la côte ouest de l'Afrique, entre la Guinée et le Liberia, le bout du monde.
Oui, et du coup, c'est vrai que bien sûr, ça correspondrait parfaitement au pays que vise Trump. Est-ce que c'est une surprise la façon dont Trump parle de ces pays? Sans doute non. Finalement, c'est un exemple de plus de cette période très difficile que vit l'Amérique, que vivent les Américains. J'y enseigne, c'est très très difficile pour une partie des Américains de vivre en direct quasiment leur déclin et le déclin de leur autorité dans le monde ou de leur leadership de manière aussi accélérée que sous Trump. Encore une fois, le processus, je pense, a commencé avant. Hein. Je crois que c'est la guerre en Irak qui est l'événement tout à fait tournant qui marque la fin du leadership moral et politique sur la scène internationale des États-Unis, mais Trump l'accélère.
D'ailleurs, puisque vous faites référence à votre métier d'enseignant aux États-Unis, à Madison, dans le Wisconsin, Thierry Cruvelier, il faut rappeler qu'il y a des universités américaines qui s'intéressent à l'Afrique aussi. C'est
oui,
le cas de la vôtre.
Celle du Wisconsin a un département américain, africain, pardon, très prestigieux, qui travaille énormément avec d'assez grands professeurs, des universitaires de première classe sur l'Afrique, et il continue.
Alors ça fait en quelque sorte un lien avec la Sierra Leone, la question universitaire, parce que vous commencez le livre en nous rappelant ou en nous apprenant, Thierry Cruvelier, qu'il a existé une université de qualité connue dans toute l'Afrique, en Sierra Leone, l'université de Fourah Bay.
Qui est la première université d'Afrique de l'Ouest est fondée en Sierra Leone il y a bientôt 200 ans. Et c'est à Fourah Bay que l'essentiel des élites anglophones d'Afrique de l'Ouest et au-delà vont être formées pendant environ 150 ans, jusqu'aux années 70 en tout cas. Alors ensuite, l'université connaît le même déclin extraordinaire que ce pays va traverser dans les années 80. Fourah Bay existe toujours, mais n'a plus le prestige d'antan. Mais ça fait partie du mythe national, Fourah Bay. L'université est au cœur du mythe fondateur de la Sierra Leone, qui explique un peu mon titre, qui est Terre Promise. Alors, il y a un autre aspect, évidemment, c'est que Freetown, la capitale, est fondée par des esclaves émancipés.
Donc. Alors, on va en profiter pour donner quelques repères à nos auditeurs. C'est une ancienne colonie britannique,
C'est ça, c'est une ancienne colonie britannique, avec cette spécificité que la péninsule de Freetown est donnée, en quelque sorte, aux esclaves émancipés pour s'établir. Et donc, entre la toute fin du 18e et le milieu du 19e siècle, des vagues d'esclaves émancipés vont venir s'installer sur la péninsule de Freetown, qui ensuite aura le statut de colonie britannique. Et puis le reste de la Sierra Leone est un protectorat jusque juste quelques années avant l'indépendance.
Indépendance donc en 1961.
C'est ça.
Et depuis 1961, ce pays, en tout cas sur le plan politique, vit à coups de soubresauts et de guerres, de coups d'État.
Alors, pas de guerre. Mais de coup d'État, oui. En fait, il y a un double coup d'État au milieu fin des années 60. Ensuite, non. Ensuite, on a une sorte d'installation du parti unique. Donc, on est vraiment dans l'histoire un peu classique de l'Afrique de ces années 70-80, l'instauration du parti unique. Mais il n'y a pas de guerre civile répétée comme au Libéria, voisin, par exemple. En fait, c'était très étonnant parce que quand la guerre civile vraiment commence en Sierra Leone en 1991, je me rappelle du père d'un ami dont je parle dans le livre, qui à l'époque a déjà 90 ans, il va vivre toute la guerre jusqu'à plus de 100 ans, mais quand la guerre débute, il a 90 ans, il n'a jamais entendu le bruit des armes. Aucun de nos grands-parents pourra dire ça. Ouais. Donc c'est quand même un pays qui a traversé une assez longue période sans conflit majeur pendant le siècle.
Avec ce conflit quand même de 1991 à 2002, il me semble, et donc un règlement ensuite de ce conflit, en tout cas sur le papier et dans la réalité. Et ensuite une justice, et là on va en reparler tout à l'heure, et même une commission vérité et réconciliation que vous racontez formidablement bien dans ce livre, un pays qui s'est réconcilié.
Oui, alors c'est la spécificité de ce qui se passe en Sierra Leone. Donc effectivement, la Sierra Leone n'échappe pas au conflit civil en 1991, qui au départ vient du Libéria voisin, mais évidemment s'autonomise. C'est bien une guerre sierra-léonaise. Mais, à mes yeux, c'est un conflit tout à fait unique dans l'histoire contemporaine, non seulement, à mon avis, du continent, on pourrait le comparer à beaucoup d'autres conflits civils ailleurs, il ne devient jamais un conflit ethnique, jamais un conflit religieux, et il n'a pas de ressort idéologique. Et donc, les trois grands ressorts des conflits qu'on analyse généralement, qui sont ces trois facteurs, ne sont pas présents en Sierra Leone. Alors, on arrive du coup à définir ce conflit pour ce qu'il n'est pas, c'est plus compliqué de définir pour ce qu'il est. Les Sierra Leonais souvent l'appellent de « senseless war ». Alors au début, c'est pas très satisfaisant, parce qu'évidemment, une guerre qui n'a pas de sens, on se dit « oui, on peut aller un peu plus loin peut-être ». Mais il faut comprendre ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a une sorte d'absurdité pour eux de ce conflit, qui va ensuite expliquer la façon dont la Sierra Leone retrouve son unité sociale et communautaire et humaine après la guerre, comme elle était avant. Et ça, on le remarque jamais dans les autres pays.
Une semaine d'actualité.
Alors Thierry Cruvelier, continuons notre tour du monde et partons cette fois pour la Birmanie où un accord a été trouvé à propos du rapatriement des réfugiés Rohingyas du Bangladesh. Mardi, correspondance de Rangoon signée Elisa Hunt.
Le résultat de ces discussions, c'est cette échéance. 2 ans pour régler le retour des réfugiés en Birmanie. Il devait normalement commencer la semaine prochaine, mais respecter cette date sera impossible, annonce-t-on du côté du Bangladesh, sans préciser quand ces retours vont débuter. Ce qui va pouvoir être possible dans les prochains jours, c'est l'enregistrement des réfugiés qui veulent rentrer chez eux. Pendant cette rencontre dans la capitale birmane, les deux pays ont défini ensemble le document à remplir. Le Bangladesh précise aussi que 5 camps de transit pour les Rohingyas vont être mis en place, ainsi que 2 camps d'accueil en Birmanie pour une durée qui est censée être temporaire. Reste un certain nombre de questions sur ce retour des réfugiés Rohingyas. Combien voudront rentrer dans un pays où ils sont discriminés? Vont-ils pouvoir vraiment quitter ces camps d'accueil et retourner dans leur village d'origine? Et enfin, les Nations Unies pourront-elles surveiller les conditions de ces retours? Selon la chaîne de télévision anglaise BBC, le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU avait demandé à participer aux discussions d'hier en Birmanie et n'a jamais eu de réponse.
Cap vers la péninsule coréenne maintenant et la confirmation du réchauffement entre les deux Corées qui ne feront qu'une aux prochains Jeux Olympiques d'hiver dans quelques jours. Séoul, mercredi, Frédéric Ojardias.
Une équipe conjointe et les deux Corées défilant sous le même drapeau, une péninsule unifiée bleu clair sur fond blanc, le symbole est fort. C'est une opportunité pour réduire les tensions, s'est félicité la présidence sud-coréenne. Cette participation donnera à la Corée du Nord et à ses athlètes un petit goût de liberté, a déclaré de son côté la Maison Blanche, qui voit dans les Jeux une opportunité pour montrer au régime l'intérêt qu'il aurait à sortir de son isolement en renonçant au nucléaire. L'accord est néanmoins critiqué par les conservateurs et nationalistes sud-coréens. La Corée du Sud ne va en effet pas pouvoir brandir son propre drapeau lors de la cérémonie de ces Jeux. Et les hockeyeuses sud-coréennes sont furieuses de se voir imposer des coéquipières inconnues 3 semaines avant leur premier match. Mais pour faciliter la réconciliation, quelques concessions sont nécessaires, répond le quotidien progressiste Han Kyole. Les deux Corées ont déjà défilé ensemble aux Jeux à 3 reprises la décennie précédente, de beaux symboles qui n'avaient guère eu d'impact politique durable.
Thierry Cruvelier, il y a eu beaucoup de débats cette semaine encore autour des réfugiés, des migrants en France, ces derniers jours, avec la visite d'Emmanuel Macron à Calais. Soutien à la police et critique des associations qui, selon le président, empêchent les migrants d'aller dans les centres d'accueil agréés par l'État. Au cœur du dossier, il y a la Grande-Bretagne, car les immigrants de Calais veulent se rendre en Angleterre. Et rappelons que selon les accords du Touquet, ce sont les Français qui gèrent la frontière anglaise. Accords qui ont été au cœur d'un sommet anglo-français jeudi. Anastasia Becchio.
Président Macron, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour votre première visite.
Première visite du président Macron au Royaume-Uni et premier sommet franco-britannique depuis le vote du Brexit. Sur fond de négociations délicates avec l'Union européenne, Theresa May, fragilisée politiquement, cherche à nouer des relations fortes avec son voisin.
Une relation forte et profonde entre le Royaume-Uni et la France est dans l'intérêt de nos deux pays. Nous quittons l'Union européenne, mais nous ne quittons pas l'Europe.
Réticent à une révision du traité du Touquet qui a déplacé de fait la frontière britannique à Calais, le Royaume-Uni a fini par accepter de signer un deuxième accord, en vertu duquel il s'engage à accélérer les instructions des dossiers de demandeurs d'asile, en particulier des mineurs. C'était une demande de la France. Autre geste salué par Emmanuel Macron, l'envoi de 3 hélicoptères de transport lourds pour épauler les troupes françaises au Sahel. Dans ce domaine, Emmanuel Macron espère qu'en dépit du Brexit, les Britanniques contribueront avec la France à l'Europe de la défense.
Nous sommes convenus que la relation de défense franco-britannique pourrait contribuer à l'initiative européenne d'intervention qui doit renforcer les liens entre les armées d'un groupe de pays européens particulièrement avancés sur le plan opérationnel.
Autre manifestation de la volonté d'engagement conjoint, Emmanuel Macron a annoncé que des soldats français seraient déployés l'an prochain au sein du contingent britannique en Estonie.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Thierry Cruvelier, avec lequel nous parlons de la Sierra Leone. Quelles sont les relations aujourd'hui de la Sierra Leone avec son ancien pays colonisateur, la Grande-Bretagne?
Bon, il y a toujours quand même une relation privilégiée avec l'ancienne puissance. Il me semble que...
Il faut rappeler d'évidence que c'est un pays de langue anglaise.
Oui, un pays de langue anglaise. Et la communauté Crio, qui a vraiment fondé Freetown, qui a fondé Fourabé, etc., a toujours eu un lien historiquement très étroit avec l'Angleterre. Ça, je pense qu'on a quand même observé depuis une vingtaine d'années, ça se distend terriblement. Ce lien existe, mais il est beaucoup moins présent. Les élites aujourd'hui, sierra-leonaises, bien sûr, regardent vers l'Angleterre, mais plus du tout. Il n'y a plus ce lien ombilical qu'il y a eu jusqu'aux années 70, je dirais.
Alors l'économie de la Sierra Leone s'est effondrée aussi avec la guerre civile notamment. On parle toujours des diamants, c'est toujours le cas aujourd'hui.
Oui, les diamants sont toujours produits. La Sierra Leone demeure une terre extrêmement riche en sous-sol, en matières premières. En revanche, elle a connu, donc en 2014, il y a cet effondrement des cours des matières premières, alors que le pays est en train de se relever, l'exploitation du minerai de fer aussi a repris à cause de la demande chinoise, et tout d'un coup tout s'écroule en même temps que l'épidémie d'Ebola. Donc on est quand même dans une phase où la production de diamants continue, mais la production d'autres grosses matières premières comme le minerai de fer est un peu suspendue.
Production de diamants dominée en quelque sorte un peu par l'Afrique du Sud, non?
Sur les grosses exploitations de diamants de roche, c'est des Sud-Africains qui contrôlent la plus grande mine.
Alors, ce qui frappe dans votre livre, qui était formidable, parce qu'on est dans la rue, on est dans les bistrots, dans les cafés, on est avec la population et qui a une véritable force, un courage incroyable.
Ouais,
et un optimisme sans faille.
Ouais, il y a vraiment un esprit de résistance, de résilience sierra-léonais qui, moi, m'a toujours marqué. Il s'accompagne parfois aussi d'une forme de passivité qui les trouble même.
De fatalisme.
De fatalisme ou de soumission presque au sort qui leur est imposé. Mais je crois qu'il y a les deux facettes. Il y a une facette qui est plus triste, qui est un peu cette phase un peu soumise, mais il y a aussi une force de l'attente chez eux, une capacité d'endurer qui est... un peu le sous-titre, si on veut, du livre, qui est exceptionnel et qui forge vraiment le métal dont ce peuple est fait et l'esprit dont il ne se départit jamais. Ce qui fait que la flamme, l'énergie vitale, l'humour extraordinaire que conservent les Sierra-Leonais ne se dégrade jamais.
Thierry Cruvelier, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde. Sait-on jamais, il sera peut-être aussi question de la Sierra Leone. Et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour maintenant à 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction et notre invité Thierry Cruvelier avec lequel nous évoquons la Sierra Leone dont il parle longuement dans son dernier livre publié chez Gallimard.
Une semaine d'actualité.
Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné.
Alors revenons sur la décision du gouvernement français annoncée mercredi de ne pas construire donc un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Vous avez entendu à l'instant le Premier ministre et tout à l'heure au début de l'émission. Écoutons d'abord la satisfaction des opposants à ce projet. Reportage d'Alexis Bédu.
Il y a maintenant 2 heures, le gouvernement a annoncé enfin officiellement l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Ils sont heureux, les opposants à l'aéroport. Sur la ZAD, ils ont fêté toute la nuit la victoire tant espérée. Que ce fut long, répète Françoise Verchère, ancienne élue du territoire et opposante historique. Sa première pensée, ce fut pour les générations futures.
On a quand même dit là qu'on ne pouvait plus aménager, comme ils disent, le territoire en détruisant les zones agricoles, les zones naturelles, la biodiversité. Et ça, c'est un petit espoir compte tenu de l'avenir assez peu radieux que nous promet la planète dans les décennies qui viennent.
Le Premier ministre Édouard Philippe laisse jusqu'au 30 mars pour quitter la ZAD, une annonce qui n'a pas refroidi les zadistes, habitants illégaux de ce bocage depuis une dizaine d'années. Ils resteront et ils ont bien l'intention d'entamer des négociations avec l'État et les collectivités locales.
Nous, on estime déjà qu'on a toujours géré ce territoire bien mieux que ne le fait l'État. C'est un territoire qui permet d'avoir une expérimentation sociale, environnementale et agricole et écologique. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est pas faisable ailleurs.
Prochain rendez-vous pour eux le 10 février à l'occasion d'un grand rassemblement au goût de victoire sur la question de l'avenir de la ZAD.
Alors la ZAD, zone d'aménagement différé qui est devenue la zone à défendre. Alors après la satisfaction, la colère, écoutez, cet habitant riverain de l'aéroport de Nantes, qui sera donc agrandi, habitant déçu, c'est le moins qu'on puisse dire, par Emmanuel Macron.
Enfin, il est devenu un politique comme les autres, c'est-à-dire qu'on peut plus compter sur sa parole. Pendant la campagne électorale, il avait clairement dit qu'il était pour le projet et qu'il comprenait la nécessité du transfert. Au moins, le président Hollande, lui, il avait le courage de rien faire. Donc à la limite, ça aussi, il nous avait habitués à ça. Le président Macron, bah effectivement, là, c'est une surprise totale. Jusqu'avant l'annonce, j'étais intimement convaincu qu'on allait faire respecter l'état de droit. On va voir comment on peut envisager les actions, mais la différence, c'est que nous sommes des citoyens démocrates contribuables. Donc, accessoirement, on travaille. Nous, on n'est pas payé à plein temps. On touche pas le RSA pour occuper des zones. Donc, effectivement, pour nous, les actions seront beaucoup plus compliquées. C'est pour ça que c'est encore d'autant plus frustrant. Parce qu'encore une fois, on donne raison à des gens moi j'appelle ça des bourgeois de la République, parce qu'ils étaient assistés grâce à nos impôts, c'est ça le plus comique. Des agriculteurs qui sont subventionnés par nos impôts aussi. Donc c'est complètement surréaliste comme situation. Nous, on se retrouve piégés, c'est clair.
7 jours en France.
Autre image sonore, les mouvements de grève des gardiens de prison après de violentes agressions de détenus et des blocages de prison. Écoutez par exemple le reportage à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais de Stéphane Lagarde.
La démission du directeur n'aura pas suffi à calmer les esprits. Depuis vendredi, des machines à laver, des pneus et des palettes continuent de brûler devant la centrale de Vendin-le-Vieil. Avec Condé-sur-Sarthe, la centrale du Pas-de-Calais est la prison la plus sécurisée de France. Ce qui n'empêche pas les agressions. Aziz, surveillant.
Il y a eu une première agression à l'ouverture, un détenu très difficile, Borromé, qui a pris en otage le directeur adjoint. Ensuite, vous avez un psychopathe sorti du quartier d'isolement qui a tué un codétenu. Une strangulation tellement brutale que la carotide a sauté.
Cette violence au quotidien est encore envenimée par l'omerta des chefs d'établissement qui verraient leur prime baisser à chaque incident, selon les syndicats. Un manque de considération auquel entend remédier la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.
Je suis venue à Vendin pour rencontrer des personnels qui ont été victimes d'une tentative tentative d'assassinat par un terroriste. D'abord, je me suis engagée à ce que le ministère apporte une véritable reconnaissance aux personnels qui ont subi l'agression.
Reconnaissance de l'État, il s'agit aussi de rétablir l'autorité des agents sur les coursives.
Il faut savoir qu'ici à Vranin, le directeur gère tout. Il faut savoir que le directeur adjoint, l'année dernière, descendait au désirata d'un détenu qui n'avait pas eu la marque de chips souhaitée pour son UVF. C'est un hôtel 3 étoiles et non pas une centrale haute sécurité. Nous, on est devenus des porte-clés. Il nous manque simplement une petite serviette sur l'avant-bras, sincèrement.
Et des représentants syndicaux qui se sont félicités des propositions de la ministre mardi tout en affirmant rester vigilants et solidaires avec leurs collègues mobilisés dans toute la France.
À suivre dans nos journaux, il y a eu encore des incidents hier et une nouvelle agression à la prison corse de Borgo hier vendredi. À suivre donc dans nos journaux. À retenir aussi dans l'actualité française la baisse de la natalité dans notre pays pour la troisième année consécutive. Suite d'une semaine d'actualité avec vous Thierry Cruvelier. Et là j'ai envie que nous parlions un instant de la France en Sierra Leone. Je vous cite dans votre formidable livre. J'ai connu Paul Lapia. Votre livre n'est fait que de rencontres. J'ai connu Paul Lapia dès les premières semaines de mon arrivée en Sierra Leone en 1990. Paul est alors le directeur du centre pédagogique franco-sierra léonais de Beau. Il est l'un des deux piliers de la centaine d'enseignants Sierra Leone du français exerçant sur cette terre non francophone, le croyant d'un monde qui bientôt ne sera plus et qui brille de ses derniers feux. À ce point-là ?
Oui. Si on regarde la présence française en Sierra Leone encore au tout début des années 90, est assez impressionnante. Tout le tourisme de la péninsule est à 90% français. Il y a une école française, il y a une alliance française, il y a cette association d'enseignement français. Le français est obligatoire pendant les trois premières années du secondaire. Il y a des centres pédagogiques dans les deux grandes villes de province plus Freetown. Et on a en plus une coopération technique, agricole, etc. Il y a une vraie présence française. Et elle va totalement disparaître au milieu des années 90, c'est terminé.
Il n'y a pas d'ambassade d'ailleurs.
Il n'y a plus d'ambassade à Freetown. Et Freetown est géré par l'ambassade à Conakry en Guinée.
Donc un net recul.
Un très net recul, un très très fort recul que Paul Lapia va subir de plein fouet, puisque lui il a construit sa vie autour de l'enseignement du français et du rayonnement de cette culture qu'il a embrassée, même s'il est de cette ville du centre de la Sierra Leone. Et il va entretenir son rêve pendant même une bonne partie de la guerre. Il va quand même arriver à maintenir l'existence de ce centre pédagogique pendant la guerre sans aucun soutien, mais uniquement parce qu'il y croit. Et ensuite, après la guerre, il n'y a pas de retour des C'est-à-dire Français.
Il y a les grands discours sur la francophonie et il y a la réalité dans certains pays qui est celle-ci, Thierry Cruvelier. Vous vouliez réagir en écoutant nos reportages sur Notre-Dame-des-Landes, sur cette appropriation des terres, qui est un problème d'ailleurs qui dépasse largement les frontières françaises.
Les questions à la fois d'environnement et d'accaparement des terres sont absolument centrales dans la plupart des pays au monde, à ma connaissance, certainement en Sierra Leone aussi. C'est la source actuelle et future des plus grosses violences ou conflits sociaux ou pires. Donc c'est vrai que, bien sûr, Notre-Dame-des-Landes peut se régler de manière relativement non violente jusqu'ici.
On l'espère.
On l'espère, dans des contextes comme celui de la Sierra Leone, où quand même la protection des individus, l'état de droit est beaucoup plus faible. On peut craindre le pire, et en tout cas, c'est sans doute la source des futurs conflits.
Oui. En ce qui concerne la Sierra Leone, et c'est valable aussi pour d'autres pays, en Afrique notamment, la question de savoir quel est le poids du politique, du gouvernement sur, par exemple, les grands producteurs de diamants, sur ceux qui s'occupent des ressources minières, a-t-il véritablement un poids, ce gouvernement ? Y a-t-il une autorité politique digne de ce nom ?
Il y a une autorité politique, mais qui semble être encore soumise au pouvoir des puissances privées qui exploitent les mines.
Ouais.
Elle peut changer, ce rapport peut changer, ça dépendra vraiment de la volonté de ceux qui dirigent ce pays, qui un jour peuvent tout à fait décider de vraiment imposer leurs conditions, et donc les intérêts du pays, à ceux qui exploitent les mines.
Nous allons parler tout à l'heure de la présidentielle du 7 mars prochain, mais en décembre, le gouvernement sierra-léonais a vendu aux enchères un diamant appelé le diamant de la paix. Il a récolté un peu plus de 6,5 millions de dollars. On espère que la population en profite.
Oui, alors c'est un peu le...
Parce que vous rappelez dans ce livre, dans ce beau livre, que la population de la Sierra Leone est parmi les plus pauvres du monde.
Oui, elle est devenue avant la guerre civile, elle est restée très très longtemps après la guerre civile. Aujourd'hui, elle reste dans le peloton de queue de ce qu'on appelle l'index du développement humain établi par l'ONU. Donc absolument, les populations, notamment des régions où sont exploités le diamant ou d'autres minerais, sont parmi les plus pauvres. Ils ne reçoivent pratiquement rien de ce qui peut être retiré comme richesse de ces exploitations. Donc le problème demeure largement entier. Et c'est relativement amélioré. Il y a quand même un certain nombre d'organisations dans la société civile qui essaient de surveiller l'exploitation et qui ont plus de capacités, mais faibles.
Oui. Alors il faut rappeler, vous le faites dans le livre, que c'est en quelque sorte le fil rouge de votre ouvrage, de votre reportage, en quelque sorte long reportage de Thierry Crevelieu, c'est qu'en 1977 est né un mouvement étudiant qui a mis en quelque sorte le feu aux poudres, qui a engagé, entamé la protestation dans le pays contre le régime en place, contre les...
Il y a assez peu de moments, c'est un peu une spécificité. La Sierra Leone a assez peu de moments où il y a une sorte de mouvement, de soulèvement populaire. Et il y en a deux grands qui sont vraiment maintenant inscrits dans la mémoire collective. Le premier, c'est cette révolte étudiante en 1977 qui aboutit à une révolte nationale, qui a failli renverser le parti au pouvoir, mais qui finalement est étouffé, réprimé et se conclut par l'instauration du parti unique. Donc c'est vraiment l'échec ensuite.
Contre-productif.
Mais la mémoire de ce soulèvement est étonnamment demeurée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une référence. C'est le moment où l'esprit de réforme a failli s'imposer. Et puis, au milieu de la guerre, il y a cet événement incroyable en 1996, alors que les rebelles et l'armée se dressent contre la population civile, la population civile impose l'organisation d'élections qui vont réussir contre toute attente à se dérouler et imposer le retour à un gouvernement civil. Et là, c'est les femmes qui ont été les leaders de cet incroyable soulèvement populaire, qui lui aussi va aboutir à un nouveau coup d'État qui mettra fin au gouvernement civil. Mais ce sont les deux grands moments sur lesquels les Sierranais peuvent se dire, quand on est vraiment acculé ou quand on veut vraiment espérer, on peut tout faire.
Alors, il y a un pays qui a une grande influence dans la vie de la Sierra Leone, et pas simplement sur le plan politique, c'est le Libéria. D'ailleurs, le conflit de 1991 est venu de là.
Oui, le début de la guerre sierranaise est quand même une expansion du conflit libérien. Donc ces deux pays ont beaucoup de choses en commun et en même temps sont très différents. Et on a parlé tout à l'heure de ce qui a fait la spécificité de la guerre civile en Sierra Leone, qui ne devient jamais ethnique.
Ce qui n'a pas été le cas au Libéria.
Ça n'a pas du tout été le cas au Libéria. C'est un peu une sorte de mystère sierra-léonais, parce qu'on a aussi des groupes ethniques tout à fait similaires de chaque côté de la frontière. Et pourtant, une tradition historique d'inclusion, d'hospitalité en Sierra Leone qui a évité cette division communautaire qu'on a observée au Libéria.
semaine.actu@rfi.fr.
Continuez bien sûr à nous écrire à cette adresse et à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Quelques messages, quelques dédicaces comme chaque semaine dans cette émission, Thierry Crevelieu. Je salue d'abord Taïrou qui nous écoute à Mopti au Mali. La lutte contre le terrorisme passe par la lutte contre le chômage des jeunes, écrit-il. Le chômage est l'une des causes du terrorisme, particulièrement en Afrique. Fin de citation. Un bonjour également à Mahamat Ibrahim Njamena, Réveillon à Kinshasa, à Carlos à Yaoundé, à Yvan à Douala. Je salue Linda à Marseille et Jean-Ralph à Haïti.
7 jours en Afrique.
Thierry Cruvelier, avant de reparler de la Sierra Leone, direction le Niger, où mercredi soir, un poste militaire a été attaqué à Toumour, non loin de Bosso, dans la région du lac Tchad, donc, par des combattants de Boko Haram. 7 soldats nigériens ont été tués. Correspondance de Niamey, signée Moussa Kaka.
C'est la troisième fois depuis le début de la guerre contre Boko Haram que l'armée nigérienne subit de lourdes pertes dans le lac Tchad. Le bilan de l'attaque de la position de l'armée à l'entrée du village de Toumour est très lourd. 7 soldats ont été tués lors des combats et une dizaine de soldats blessés. Du côté de la logistique, 5 véhicules de l'armée ont été détruits et 10 autres emportés par les éléments de Boko Haram dans le lac Tchad. C'est à bord de plusieurs véhicules et de motos que les djihadistes de Boko Haram ont attaqué les soldats nigériens. Les djihadistes qui ont traversé le lit de la Komadougou Yobé sans se faire repérer ont choisi le crépuscule pour lancer leur attaque. Selon plusieurs sources jointes à Toumour, la stratégie utilisée par Boko Haram a consisté à placer en tête de convoi des véhicules pris à l'armée nigériane. Malgré le feu de surprise, les violents combats ont duré plus d'une demi-heure et au vu du surnombre des djihadistes, les soldats nigériens ont dû quitter leur position, d'où les importantes pertes matérielles et des magasins de vivres et de munitions pillés et incendiés. L'arrivée des renforts au petit matin a permis de reprendre le contrôle de la position de Toumour. On se rappelle qu'il y a quelques jours, le gouvernorat de la région de Diffa avait repoussé le délai de l'accueil des repentis de Boko Haram. Cette attaque constitue vraisemblablement une réponse à l'appel des autorités. Les djihadistes gardent toujours leur capacité de nuisance dans le lac Tchad.
Partons maintenant pour la République démocratique du Congo, la RDC, où la nouvelle loi électorale est à nouveau contestée, cette fois devant la Cour constitutionnelle. Au cœur de cette contestation, le seuil de représentativité des candidats fixé à 1% à Kinshasa, Florence Maurice, lundi.
Parmi les signataires, une dizaine est issue de la majorité présidentielle, les autres sont de l'opposition. À leurs yeux, le seuil de représentativité viole l'article 101 de la Constitution, car selon Christophe Lutundula, député et vice-président du G7, ce seuil disqualifie les candidats indépendants.
L'article 101 de la Constitution reconnaît comme catégorie qui peuvent se porter candidats des Congolais qui sont dans des partis politiques, mais aussi les Congolais indépendants. Or, les candidats indépendants ne pourront jamais atteindre les seuils étant candidats dans une seule circonscription et pour une seule élection.
Les signataires contestent également le montant de la caution fixé à 1 000 $ par candidat, un montant jugé discriminatoire car il exclut la plupart des Congolais de la course.
Les gens qui ont des salaires très très bas sont interdits d'accéder aux fonctions publiques, ce qui est contraire à l'article 13 de la Constitution qui interdit qu'on puisse discriminer les Congolais en raison de leur situation sociale. Et c'est le cas ici avec cette caution qui n'est accessible qu'aux nantis.
Les signataires de la requête assurent que leur démarche n'aura pas d'impact sur le calendrier électoral car la Cour constitutionnelle a 30 jours pour trancher et le dépôt des candidatures ne doit pas débuter avant plusieurs mois.
L'actualité africaine cette semaine, c'est aussi au Bénin un gros malaise social et des grèves dans la fonction publique et plus seulement dans le monde judiciaire, dans les hôpitaux aussi, en cause une restriction du droit de grève dans le secteur public à suivre dans nos journaux à propos notamment de la décision de la Cour constitutionnelle. Notez aussi le sauvetage mardi en Méditerranée de quelques 1400 migrants qui tentaient la traversée depuis l'Afrique du Nord, à retenir aussi le non-lieu ordonné par la justice française dans l'enquête sur les accusations de viol contre des soldats français en Centrafrique en 2013 et 2014. Non-lieu, dit la justice, faute d'avoir pu établir leur implication. Avant un retour à Freetown, revenons maintenant, Thierry Crevelier, sur la contestation sociale en Tunisie la semaine dernière. Elle a laissé des traces. Écoutez ce reportage jeudi réalisé à Tebourba, la ville où ce mouvement a commencé. Léa Lisa Vestaroff.
Dans la petite ville de Tebourba, le soleil brille. Les hommes désœuvrés sont de retour au café. Les pierres lancées, barrages et tirs de gaz lacrymogène semblent être un lointain souvenir. Mais l'image est trompeuse, car après les manifestations, l'heure est au décompte. 930 personnes au moins ont été arrêtées sur tout le territoire en une semaine. Et dans la bourgade de Tebourba, de nombreuses arrestations arbitraires ont été recensées. Anis Mabrouki, volontaire de la Ligue tunisienne des droits de l'homme.
Pendant la nuit, beaucoup d'harcèlement. Quand les gens dorment, les policiers font des descentes la nuit, font sortir les gens de leur maison.
Human Rights Watch confirme une série d'arrestations arbitraires de nuit entre vendredi et samedi à Tebourba, et ce, alors qu'il n'y avait plus aucune manifestation. Hamza, 26 ans, au chômage et dans la rue il y a encore une semaine, confirme comment continuer à manifester quand tant de personnes ont été arrêtées.
On a choisi d'arrêter les manifestations, le temps de voir ce qui se passe avec nos amis qui ont été emprisonnés. On a parlé de mauvais traitements, La priorité, c'est donc de voir leur situation avant de continuer.
Ce matin doivent comparaître un nombre indéterminé de jeunes arrêtés la semaine dernière. Seront-ils condamnés ou relâchés? Beaucoup font de la décision de la justice le baromètre de la suite à donner à la mobilisation.
Une semaine d'actualité.
Retour en Sierra Leone avec vous Thierry Cruvelier. Je répète que vous avez passé quelques années à suivre l'activité du tribunal pénal pour le Rwanda. Je crois que vous avez travaillé 5 ans à Arusha. Quel souvenir vous conservez de cette période?
Forcément une période extraordinaire parce que c'était le début du développement de ces tribunaux internationaux pour crimes de guerre qui ont ensuite essaimé un peu dans différentes parties du monde. Donc c'était assister au développement d'un droit international tout à fait inédit. En même temps, il s'accompagne forcément de grandes désillusions sur le fonctionnement de la justice, sur l'équité des procès, sur la politisation aussi de ces cours internationales. Alors c'est fascinant pour moi en tant que journaliste, ça peut être assez cruel ou frustrant pour une partie des gens.
Il y a eu un tribunal pour la Sierra Leone aussi, il faut le dire.
Oui, alors la Sierra Leone a une expérience assez unique parce qu'elle a à la fois un tribunal à caractère international qui est fondé en plus d'une commission vérité et les deux se déroulent en même temps, ce qui est un cas assez rare dans l'histoire contemporaine. Et donc les deux grands mécanismes de ce qu'on appelle la justice transitionnelle, qui est donc cette justice après crime de masse,
Après donc cette guerre entre 1991 et 2002.
C'est ça, au lendemain de la guerre civile, la Sierra Leone a ces deux grands mécanismes. Et en même temps, elle a ces deux mécanismes, et puis tout le processus finalement de réintégration des combattants dans la communauté ou de réconciliation se passe pas au niveau de ces mécanismes. Il se passe vraiment au niveau local, au niveau des chefs traditionnels, des autorités locales. Donc
un peu comme au Rwanda, en quelque sorte, non?
Ah, le Rwanda.
Il y avait les tribunaux populaires, les gachacha, les fameux.
Mais les gachacha sont un phénomène tout à fait encore unique puisque c'est le Rwanda a opéré quelque chose d'inédit qui est une justice de masse après un crime de masse. Ah, aucun pays au monde n'a jugé plus d'un million de personnes. Disons que tout le monde y est passé à tous les niveaux de responsabilité. Ça, c'est tout à fait unique. En Sierra Leone, c'est l'inverse. On a une justice très très ciblée. Et le reste se passe au niveau communautaire. Aujourd'hui, les Sierra Leonais sont, à mon avis, savent gré au tribunal international d'avoir jugé Charles Taylor. Ça, c'est vraiment important. Et ils peuvent savoir gré à la commission vérité d'avoir écrit un rapport final qui, aujourd'hui encore, est une référence sur à la fois ce qui s'est passé, les causes du conflit, le déroulement du conflit, et sur ce qu'il faudrait faire pour que la guerre ne revienne pas. Ouais. Et aujourd'hui encore, les journalistes sierra leonais se réfèrent aux recommandations de la commission vérité qui n'ont évidemment pas été appliquées, mais qui devraient l'être si on veut éviter le retour de ce passé furieux.
Ce qu'on dit long, d'ailleurs, sur ce peuple de 6 millions d'habitants, c'est qu'on puisse à la fois aussi rapidement, finalement, juger et parler pour tenter de se réconcilier est quand même assez symptomatique.
Oui, encore une fois, c'est ce qui fait un peu sa singularité à cette société, c'est qu'elle se retrouve telle qu'elle, après la guerre, comme elle était avant, parce qu'en fait, elle ne s'est pas dressée contre elle-même. Les Sierra Leonais ont subi les groupes armés, mais ils se sont jamais dressés les uns contre les autres, en réalité.
Alors, parlons du présent et de l'avenir aussi, Thierry Crevelier. Il va donc y avoir une élection présidentielle dans quelques semaines, le 7 mars prochain. Une élection présidentielle qui s'annonce, dites-vous, cruciale.
À mon avis, la plus intéressante, peut-être, depuis la guerre, notamment parce qu'il y a un candidat qui essaie de perturber le jeu des deux grands partis traditionnels qui ont dirigé le pays depuis l'indépendance et sont en partie quand même responsables de sa ruine. Donc ce candidat semble vouloir un peu faire un coup à la Macron, puisqu'il joue en dehors des deux grands partis et il opère une campagne éclair, rassemblée, concentrée sur quelques mois. On verra, mais c'est certainement l'élection la plus excitante que ce pays ait connue depuis la guerre.
Avec une nouvelle génération, donc.
C'est pas très clair, parce qu'il a quand même 58 ans, donc c'est pas un Macron en ce sens-là, c'est pas un jeune homme. Mais ce qu'il véhicule, c'est quand même fondamentalement l'esprit de 1977, de cette révolte étudiante, de cet esprit de réforme. C'est ça ce qu'il veut incarner. Et d'ailleurs, le président du parti qui soutient ce candidat, c'est Dennis Bright, qui est un personnage que je décris beaucoup, beaucoup dans le livre, qui était le numéro 2 du mouvement des étudiants de 77.
Et qui vous accompagne pendant tout le voyage, qui est au cœur du livre, il faut le signaler. Vous avez une phrase que je trouve formidable et qui résume sans doute la situation. La Sierra Leone avance en crabe, mais elle avance.
Oui. Comme beaucoup de parties du continent à mes yeux, le continent change extraordinairement depuis 20 ans. La Sierra Leone aussi. Mais bien sûr, avec des avancées, des reculs constants.
Ouais.
Comme l'histoire de beaucoup de civilisations finalement.
Merci Thierry Cruvelier. Je recommande vivement votre livre qui s'intitule, avec une, d'ailleurs en plus une magnifique couverture, qui s'intitule Terre Promise, publié chez Gallimard. Cette couverture en un mot, il faut en dire, c'est un tableau.
C'est un tableau d'un des trois grands peintres contemporains congolais, Chéri Chérin, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté qu'on l'utilise. Formidable tableau d'un des plus grands peintres contemporains d'Afrique.
Et qui donne le ton au livre en plus. C'est fait pour ça.
Absolument.
Merci. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous vous proposerons une rencontre avec l'anthropologue Marc Auger qui a longtemps travaillé en Côte d'Ivoire et au Togo. Avec lui, nous parlerons de la spécificité de son travail sur l'idée par exemple de surmodernité qui le caractérise. Demain dimanche, 15h10, temps universel pour vous qui nous écoutez en Afrique. Puis 17h10, heure de Paris, à Paris donc et ailleurs dans le monde. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.